Gray contre N93 par Alfred Gragnon.
Mission délicate,
dit un des deux messieurs qui se trouvait en même temps que Gray dans le cabinet du directeur de la police judiciaire. Le célèbre inspecteur eut un geste évasif comme pour exprimer qu'il était encore temps de choisir quelque autre que lui. Le directeur de la PJ crut devoir prononcer quelques mots.
« J'entends, Gray, que vous devez être surpris que monsieur le directeur de la Sûreté nationale et que monsieur le chef du deuxième bureau nous fasse l'honneur de demander à un de mes collaborateurs, soit-il, comme vous, le plus précieux, la charge d'une enquête qui n'est pas dans les attributions d'un inspecteur de la police judiciaire. Quelques explications sont nécessaires. Ces messieurs voudront bien vous les donner. »
Le regard pensif de Gray se posa une seconde sur les personnages importants en présence de qui il se trouvait. Puis ses yeux se fermèrent à demi et il dit de sa voix grave « J'écoute, messieurs. » Ce fut au tour du chef du deuxième bureau de prendre la parole. C'était un homme à l'aspect militaire, distingué, déjà âgé, qui parlait lentement, mais avec une netteté métallique. « Monsieur Gray, dit-il, vous vous rendez bien compte que dans l'actuelle situation internationale, notre lutte contre l'espionnage est d'une particulière acuité. » Le directeur de la Sûreté nationale approuva d'un hochement de tête et le chef du deuxième bureau poursuivit « Depuis assez longtemps déjà, ces messieurs de l'intérieur, mes services et moi, connaissions la présence à Paris d'une organisation puissante d'agents étrangers. Nous savions même que leur chef porte l'immatriculation N93 au service d'un État d'Europe centrale. C'est, hélas, tout ce que nous savons de lui, interrompit le directeur de la Sûreté nationale. Nous avons bien, continua l'autre chef, capté quelques radios, traduit non sans difficulté quelques messages chiffrés et même arrêté quelques suspects. Mais nous nous sommes heurtés à l'obscurité des textes, à la feinte ignorance ou au mutisme inébranlable des individus, et le mystère qui recouvre N93 et son état-major reste impénétrable. » Celui qui parlait prit un léger temps. Son visage refléta le souci de ses pensées, mais il dit encore « Cependant, nous n'avons que des preuves trop certaines de sa dangereuse activité en France. » « C'est-à-dire que nous en étions là, » dit le directeur de la Sûreté nationale, prenant à son tour la conduite de cet exposé, « quand un de mes agents a été amené à arrêter dans les services même d'une usine d'aviation, la secrétaire de l'ingénieur en chef, passant pour française, mais rapidement démasquée par nous comme une ancienne danseuse d'origine bulgare, ayant usé de faux papiers d'identité. Au fond d'une de ces malles, nous avons trouvé une petite photographie de jeune femme, quelque chose comme une photo de passeport. » Interrogée, la danseuse prétendit avoir trouvé cette photo dans un wagon de chemin de fer en Suisse et ignorait totalement la personne dont c'était là l'image. Or, il nous fut aisé de reconnaître la personne photographiée. Elle est fort jolie, riche, élégante et connue, et les magazines du monde entier ont reproduit 100 fois son cliché en de multiples circonstances mondaines. C'est la jeune baronne Spitzau, la veuve du baron Spitzau, l'aviateur allemand, victime d'un accident mortel il y a 5 ou 6 ans. Elle est la fille du célèbre marchand d'armes, Zana Croff, avec lequel elle demeure maintenant dans un somptueux hôtel du parc Monceau. » D'un signe de tête, Gray fit comprendre qu'il connaissait les personnages dont il était question. « Toutefois, enchaîna le chef du deuxième bureau, un de mes agents, chargé par moi d'enquêter sur le passé de la danseuse bulgare, découvrit qu'elle avait séjourné voici quelques années pendant près de 2 mois, à Sinaïa, la célèbre station balnéaire où même, alors que la baronne Spitzau y était également. Or, étant donné la célébrité mondaine de la ravissante baronne, qui en fait une sorte d'attraction pour les endroits où elle se trouve et la met à la tête de toutes les manifestations d'élégance et de toutes les fêtes, il est inadmissible que la danseuse prétende ne pas la connaître. D'autre part, se permit d'ajouter le directeur de la Sûreté nationale, nous savons qu'un certain Madarman, espion présumé et qui a disparu depuis près de 2 ans, connaissait une personne habitant l'hôtel de Zana Croff. Cette personne était-elle Zana Croff lui-même ou la baronne Spitzau? Nous l'ignorons. À l'époque, les agents qui surveillaient ce Madarman furent amenés à admettre qu'il n'était peut-être question que d'un flirt avec une jeune compatriote, alors seconde femme de chambre chez Zana Croff. Cette domestique a d'ailleurs disparu presque en même temps que l'espion. Et il a fallu l'histoire de la danseuse pour nous ramener vers l'hôtel du parc Monceau. Il hésita, comme pris d'une inquiétude, et se décida à ajouter
Seulement, enquêter sur Zanacroff ou sur sa maison, c'est terriblement délicat. Il est une des plus hautes personnalités mondiales. D'origine orientale assez vague, une lointaine naturalisation l'a rendu anglais. Formidablement enrichi par près d'un demi-siècle de trafic d'armes avec tous les pays du monde, cela fait près de 10 ans qu'ayant visiblement abandonné toute activité, il s'est fixé en France. Il y possède le somptueux hôtel de l'avenue Ruisdael, une merveilleuse villa près de Nice, une importante écurie de course à Chantilly. Le port d'attache de son yacht est Toulon. Port de guerre, nota pensivement au passage le chef du deuxième bureau. Il est l'ami de 2 ou 3 anciens présidents du conseil, d'une bonne douzaine d'ambassadeurs, des plus gros financiers, et il a institué de ses deniers à Paris et en France plusieurs établissements hospitaliers ou charitables. Vous comprenez que la moindre enquête sur un pareil homme ou sur son entourage n'aboutirait en cas d'erreur qu'à notre révocation ou pour le moins à notre mise à la retraite. Et cependant, il est de notre devoir de procéder à cette enquête. D'un autre côté, si par hasard nos soupçons sont fondés, si le centre de l'organisation à combattre, à détruire, se trouve dans la riche forteresse du parc Monceau, vous entendez bien que tous nos agents doivent être dès longtemps démasqués et connus autant que nous-mêmes. Alors, questionna Gray. Ce fut son chef direct qui cette fois lui répondit. Alors, mon cher Gray, il vient de se produire une occasion unique et inattendue de faire entrer quelqu'un dans la place. Un vol assez important de bijoux a été commis chez Zanacroff au préjudice de sa fille, la baronne Spitzau. Plainte a été déposée. Comme on supposait un vol domestique et que j'ignorais moi-même ce que ces messieurs viennent de nous apprendre, j'ai envoyé dès hier soir l'inspecteur principal Poussin. Ce n'est qu'il y a quelques instants que j'ai compris qu'étant donné les circonstances, mon choix ne convenait pas à ce qu'on pouvait attendre d'une semblable occasion. « Si je comprends bien, » dit Gray, avec un léger sourire, « vous désirez que j'aille aider l'inspecteur Poussin dans la recherche du voleur de bijoux ?»« Officiellement, oui. » Cela paraîtra d'autant plus naturel que Poussin n'a pas avancé d'un pas dans l'affaire du vol. « C'est bien, messieurs, » dit Gray lentement. « Je ferai en sorte de ne pas être plus habile que mon collègue, de façon à me donner les plus longues chances possibles d'observation utile sur ce qui vous intéresse. » Les 3 grands chefs connaissaient, l'un par expérience, les autres de réputation, la valeur de l'inspecteur Gray. Leurs poignées de main sympathiquement fermes traduisirent leur gratitude anticipée. 2 heures après cette conversation, l'inspecteur Gray, muni d'un ordre, se présentait à la demeure de Zanacroff et trouvait l'inspecteur principal Poussin en train de suer sang et eau à l'office où il interrogeait l'un après l'autre les nombreux domestiques de la maison. Quand Poussin vit entrer son collègue, jalousement détesté, et qu'il comprit qu'il allait avoir une fois de plus à subir cette collaboration concurrente et cette douloureuse blessure d'amour-propre, il ne put s'empêcher de faire une de ces grimaces épouvantables qui donnait tout à coup à sa face ordinairement rubiconde et poupine un aspect de masque japonais dramatique. Mais cette fois, Gray crut de bonne diplomatie de lénifier les rouages et de faire la bête. « Du diable » s'écria-t-il, « si je sais pourquoi on me mêle à cette affaire. Dans ce genre-là, vous êtes 100 fois plus qualifié que moi et vous n'avez besoin de personne. Et moi qui pensais prendre 8 jours de vacances, enfin !» J'espère qu'avec tous les éléments que vous avez déjà dû réunir, ça ne sera pas long. Je ne vois pas l'utilité de mobiliser 2 inspecteurs pour une banale affaire de bijoux. Banale ? Interrompit Poussin. Il y en a pour 2 millions. Bon, bon, murmura Gray d'un air indifférent. Mettez-moi tout de même au courant. Le gros inspecteur principal congédia sans aménité les 2 ou 3 domestiques qui attendaient leur tour de décliner leur identité, d'être interrogés, puis, d'un ton renfrogné, et en quelques phrases emplies de restrictions, commença à renseigner succinctement son collègue sur le peu qu'il avait lui-même appris jusqu'alors. « C'est bien simple, » dit-il en fronçant ses sourcils épais. La baronne Spitzau, la fille de M. Zanacroff, une jeune veuve, avait avant-hier soir, comme tous les soirs d'ailleurs, enfermé ses bijoux dans un coffre mural qui est dissimulé dans sa chambre derrière un tableau. « Oh, vous savez, ce n'est pas un coffre-fort. C'est une espèce de boîte cubique à 2 rayons » qui n'est fermé que par une porte de tôle mince, munie d'une serrure que le premier cambrioleur venu ouvrirait avec une épingle à cheveux. Hier, vers midi, en rentrant de se balader à cheval, la dame a voulu reprendre un bijou dans son coffre. Pfft ! Tout était envolé. Peu après, naturellement, on téléphonait à la police. Qui ? Quoi qui ? Qui téléphonait à la police ? Oh, je crois que c'est le secrétaire de M. Zanacroff, une espèce de vieille baderne, aussi âgée que son patron et qui connaît 36 langues, à ce qu'il paraît, mais qui est absolument incompréhensible quand il parle en français, sans compter qu'il bégaye. Avez-vous la liste des objets volés ? Oui, la voici. Oh, on a pris tout ce qui avait de la valeur. Des brillants, des perles, des émeraudes. On ne s'est embarrassé ni des écrins ni des objets sans importance. On a laissé une croix en or, mais creuse. Ça ne pèse pas 15 grammes. Une chaîne en doublé et un couvercle de boîte, qui m'a l'air d'être en cuivre. Il paraît que c'est du filigrane de gêne et que c'est très artistique. Je veux bien. Le voleur, en tout cas, l'a laissé là. Vous avez pris les empreintes, naturellement. Résultat ? Oh, on a retrouvé celle de la patronne. Et celle de sa dame de compagnie, une grande chèvre. Mais tout de même rudement belle femme. C'est plutôt une amie d'enfance de la baronne Spitzau. Elle s'appelle Vanswell. C'est une Hollandaise, mais des colonies, quelque part là-bas du côté des Indes. Il paraît qu'elle reçoit de grosses rentes. Et puis, parmi les bijoux volés, il y en a qui étaient à elle, de moindre valeur pourtant, mais qu'elle enfermait aussi dans le coffre de la baronne. Elles ont des chambres mitoyennes. Seulement, il y a aussi les empreintes de la première femme de chambre. Celle-là a une tête qui ne me revient pas. C'est une Française. Elle est de Nancy. Une bougresse bien curieuse. Pour moi, elle est sûrement mêlée à l'affaire. Elle a l'air inquiète. Elle parle avant qu'on l'interroge, donne des renseignements qu'on ne lui demande pas, s'inquiète de tout ce que je fais, essaye de deviner mes pensées. Vous pensez, je connais la musique et je la tiens à l'œil. Alors rien que les empreintes de ces trois personnes sur le coffre, rien d'autre. Un petit silence s'établit, durant lequel l'inspecteur principal sembla se livrer à la pénible recherche d'une solution particulièrement difficile. Après un court mais visible combat intérieur, il se décida à exposer à son collègue les difficultés que rencontrait son raisonnement. « Évidemment, avoua-t-il en plissant son front et la broussaille de ses sourcils. En principe, c'est ou la Vanswell ou la femme de chambre qui ont fait le coup, et qui sont les seuls à pouvoir l'avoir fait. Vraiment ?» questionna Gray, d'un air presque respectueusement intéressé. « Seulement voilà, » continua Poussin, encouragé et enorgueilli par l'attitude modeste de son confrère. Les bijoux n'ont pu disparaître qu'entre le moment où la jeune baronne a quitté sa chambre pour aller se promener à cheval et celui où elle est rentrée de cette promenade. La nuit, elle s'enferme dans sa chambre et assure que nul ne pourrait y entrer sans qu'elle se réveillât. Or, entre 9h et midi, la chambre abandonnée par sa propriétaire n'a été occupée que durant quelques secondes par Madame Vanswell, qui déclare y être entrée pour y reprendre un chapeau qu'elle avait laissé la veille chez son amie, et en être ressortie immédiatement et sans solution de continuité par la femme de chambre qui avoue sans embâge n'avoir pas ensuite quitté la pièce de la matinée. Eh bien, alors ? Oui, oui, mais attendez. Comme Madame Vanswell a bien, je l'ai contrôlée, quitté la maison 5 ou 6 minutes, pas davantage après la baronne, elle n'a pas eu le temps matériel de vider 2 douzaines d'écrins, de refermer le coffre, puis de finir de s'habiller pour sortir, puis de faire un paquet de bijoux et de le dissimuler. D'autre part, n'oublions pas qu'elle est largement à l'abri du besoin, et aussi que s'il avait commis le vol à cet instant, elle savait qu'elle risquait d'être surprise par la femme de chambre appelée à entrer dans la chambre inopinément, ce qui est en effet arrivé. Gray maintenant écoutait Poussin avec attention. Décidément, ce gros homme faisait des progrès. Ne se mettait-il pas, à présent, dans ses enquêtes, à faire des déductions d'ordre psychologique ? Cela nous ramène à la femme de chambre, reprenait Poussin. Mais de son côté, j'avoue que plusieurs éléments me gênent, bien que mon flair me la désigne comme coupable ou tout au moins comme complice. Vraiment, j'en suis sûr. Mais cependant, je suis étonné qu'elle ait choisi pour voler à un moment où elle ne pouvait pas immédiatement sortir ou faire sortir de la maison le produit du vol, et encore davantage qu'elle n'ait pas préparé un alibi, si bref soit-il, dans le courant de cette matinée, et qu'au contraire, elle soit la première à avouer et à maintenir qu'elle n'a pas quitté la chambre de sa patronne un seul instant. Elle ne peut pas ignorer qu'elle se met la corde au cou et elle persévère dans ses déclarations. Or, d'une part, elle n'est pas sortie depuis hier matin de la maison, et d'autre part, elle déclare que pendant qu'elle était en train de faire la chambre de sa patronne, seuls se sont approchés de cette chambre le premier valet de pied, distribuant le courrier arrivé à 11h, puis M. Zanacroff lui-même, qui en sortant de son propre appartement était venu voir si sa fille était chez elle. Ni l'un ni l'autre n'avait pénétré dans la chambre. Peut-être a-t-elle passé les bijoux volés au valet de pied, suggéra Gray. J'y ai pensé, bien entendu, mais celui-là non plus n'est pas sorti de la maison depuis hier. Il peut y avoir un troisième compère, soit dans la maison, soit venant de l'extérieur.
Évidemment, évidemment,
consentait Poussin en maugréant. Mais tout ça me paraît mal préparé, pas assez caché, trop offert à des soupçons inévitables. À cet instant, on frappa la porte de l'office et un chauffeur se présenta. « Je vous demande pardon, messieurs. Je viens me mettre à votre disposition. Je suis le second chauffeur. J'étais en congé depuis hier midi et je viens d'apprendre le vol en rentrant l'instant, comme j'ai appris que vous m'aviez demandé. « Ah, c'est vous, le nommé Julien. » Bougonna Poussin, rien moins qu'aimable. « Eh bien, entrez. Je n'attendais plus que vous. Voyons. » C'est vous qui, avec une des voitures de la maison, avez accompagné Madame Van Zwell dans ses courses, n'est-ce pas, hier matin?
Oui, monsieur.
À quelle heure exactement êtes-vous parti?
Il était 9 heures précises à la pendule du garage Monceau.
Madame la baronne venait de quitter l'hôtel à peine 5 minutes auparavant.
Bien.
Alors, vous faites vos courses avec Madame Van Zwell?
Oui, monsieur.
Madame Van Zwell m'a dit de la conduire d'abord chez Strum, le bottier de la place Vendôme, puis nous sommes allés ensuite chez son couturier avenue Matignon. Elle y est restée près d'une heure. De là, nous sommes allés au Galeries Lafayette, d'où Madame Van Zwell est ressortie au bout de 20 minutes environ, ses achats faits. Puis, après un arrêt chez une fleuriste du boulevard Haussmann, et un autre chez une blanchisseuse rue de Méroménil, ici près. Nous sommes rentrés à l'hôtel vers midi, au moment même où la baronne y rentrait également.
Bien, tout cela est sans intérêt.
Mais à ce moment, vous rentrez la voiture au garage.
Oh non, monsieur! Je ne suis pas rentré dans l'hôtel. J'ai conduit la voiture à l'usine très rapidement. Il fallait faire resserrer l'embrayage et les freins. J'ai repris la voiture tout à l'heure et je viens de la ramener à l'instant.
Poussin lança un regard désespéré à Gray.
Et vous n'avez parlé à personne de l'hôtel quand vous avez déposé Madame Van Zwell devant la porte?
À personne, monsieur. Je suis reparti immédiatement suivant les ordres que j'avais reçus.
Vous en êtes sûr?
Absolument, monsieur.
C'est tout, ça suffit. Vous pouvez vous retirer.
À deviner le désarroi de Poussin, Gray comprit que son collègue avait échafaudé toute une théorie du vol et de son exécution, englobant comme auteur la femme de chambre, le second valet de pied et le second chauffeur, et que les réponses de ce dernier venaient de lui démolir lamentablement. Comme le malheureux Poussin s'abîmait dans de nouvelles supputations, Gray résolut de l'abandonner quelques instants et de faire connaissance, si cela se pouvait, avec les maîtres de la maison. Pour ce faire, il prit un domestique de monter demander à la baronne Schwitzau si elle voulait bien recevoir le nouvel inspecteur chargé de l'enquête. Quelques instants après, il était introduit au premier étage dans un petit salon élégant faisant partie de l'appartement personnel de la jeune victime du vol. La fille de Zanakrov, debout près d'une fenêtre, attendait l'inspecteur. Déjà, celui-ci commençait. « Je m'excuse, » elle l'interrompit d'une voix douce. « Inspecteur Gray, n'est-ce pas? J'attendais votre visite.
Oui ?» Monsieur le préfet de police, qui est un ami de mon père, nous a fait prévenir qu'il m'envoyait, pour rechercher mes malheureux bijoux, un inspecteur plus adroit que celui qui nous a été envoyé d'abord. J'avoue que votre collègue ne m'inspirait guère confiance.
Mais enfin, les apparences peuvent être trompeuses. Toutefois, la réputation dont vous jouissez, monsieur Gray, me donne un peu d'espoir.
Gray s'était incliné.
Oserais-je vous demander, madame, de me montrer le coffre dévalisé ainsi que la chambre où il se trouve et les pièces avoisinantes?
Mon collègue m'a bien mis au courant de la plupart des circonstances, mais j'aimerais me rendre compte moi-même. »
Ayant consenti d'un signe de tête, la jeune femme introduisait l'inspecteur dans la chambre voisine, sa propre chambre, véritable et luxueux musée du XVIIIe siècle. Elle lui indiqua le tableau derrière lequel était le petit coffre. Le tableau déplacé, Gray aperçut une petite clé de sûreté qu'on avait laissée dans la serrure. Sans une question, il ouvrit le coffre. Des écrins vides s'y montraient pêle-mêle. Sur la tablette inférieure, quelques objets sans grande valeur se trouvaient encore, ceux dont Poussin avait parlé. Une croix grecque, une grosse chaîne formant collier et une plaque de filigrane, gris légère et dorée, rehaussée au coin de 4 petits camées. Gray, ayant pris son mouchoir, sortit avec son aide ces 3 objets de leur cachette et les déposa sur une commode. « Qui, demanda-t-il, était au courant de l'existence de ce coffre ?»
À ce que je sais, 4 personnes seulement. Mon père, moi-même, une amie de 20 ans, qui vit avec moi depuis la mort de mon mari, Madame Van Zwell, et ma première femme de chambre, à mon service depuis 7 ans. où se trouvait la clé de ce coffre quand il n'était pas ouvert?
Au fond du tiroir de cette table de chevet.
Ce que n'ignorait ni Madame Van Zwell, ni la femme de chambre, sans doute.
Bien entendu, consentit la baronne Spitzau, mais je me porte garante.
Oui, certainement, voulut couper Gray avec douceur. La jeune femme continua cependant.
Madame Van Zwell est au-dessus de tout soupçon, et quant à Marguerite, ma femme de chambre, c'est une Française qui ne sort jamais, qui m'est très dévouée.
Gray nota au passage l'insistance assez marquée avec laquelle son interlocutrice avait rappelé la nationalité de sa femme de chambre.
« Pas grande valeur, cela, n'est-ce pas ? »
murmura-t-il en montrant les trois objets qu'il avait déposés sur la commode.
« Non, dit-elle, des souvenirs de famille, du moins la chaîne et la croix. Le petit grillage en filigrane de gêne m'a été offert lors d'un séjour à Florence par Madame Van Zwell. C'est un couvercle de boîte de la Renaissance italienne.
« C'est dommage, dit Gray, que la boîte elle-même manque. Le fond et les côtés devaient être également du même travail et du même dessin.
Oui, certainement.
Madame Van Zwell a voulu, il y a 5 ou 6 ans, les faire réparer ou plutôt compléter cet objet.
Mais le réparateur qu'elle avait trouvé, après l'avoir gardé quelque temps, a renoncé à entreprendre ce travail et nous a rendu ce couvercle. Il faudrait aller en Italie.
Gray approuva d'un air indifférent, puis demanda à se rendre compte des êtres.
La pièce voisine est la chambre de Madame Van Zwell, dit la jeune femme en ouvrant une porte.
« Marina, pouvons-nous rentrer ? »
questionna-t-elle.
« Certainement, » répondit une voix presque joyeuse.
Poussin avait raison, Marina Van Zwell était une fort jolie femme. Grande, élancée, vêtue de sombre, dégageant un charme certain, elle était le type de la vampe de cinéma. Elle devait avoir 10 années de plus que la baronne Spitzau.
Madame Van Zwell sourit à l'inspecteur et dit
« J'espère, monsieur, que vous allez retrouver les bijoux de ma pauvre Ethel. »
Gray eut un geste évasif, s'excusa de son intrusion et passa rapidement. Comme, toujours sous la conduite de la baronne Spitzau, il sortait bientôt de la chambre de Madame Van Zwell, un vieillard se présenta à lui dans le vaste couloir. Il était si près de la porte de Madame Van Zwell qu'on aurait pu penser qu'il écoutait au trou de la serrure. C'était Anna Croft lui-même. Gray le reconnut à ses lunettes fumées qu'il ne quittait jamais et qui marquaient de mystère sa personnalité. Derrière les verres sombres, l'inspecteur devina le regard qu'il fouillait. Le richissime et célèbre trafiquant d'armes eut un ricanement et de sa voix au roucoulement d'extrême levant, il laissa tomber, après examen.
« Alors c'est vous, ce fameux inspecteur.
J'espère, pourrait-elle, que vous découvrirez les voleurs aussi facilement que les assassins.
J'aurais beaucoup aimé être détective. On doit y avoir les émotions de la chasse aux fauves, bien entendu.
Je me demande qui ressent la sensation la plus vive, le chasseur ou le gibier. Dans ma jeunesse, j'ai souvent été gibier. Le chasseur a toujours eu tort avec moi. » Et sur ces étranges propos, sans donner à Gray le temps de répondre, il continua son chemin, marchant encore d'un pas ferme et souple malgré l'âge. Mais l'attention de Gray devait être aussitôt détournée par l'apparition d'un monsieur d'une 50aine d'années qui sortait à son tour d'une pièce au fond de la galerie avec une précaution feutrée que rien ne paraissait justifier. La jeune femme sembla deviner la pensée de l'inspecteur et, tandis que l'homme, les ayant aperçus, se dirigeait de l'autre côté du couloir, leur tournant le dos, elle crut devoir expliquer.
« C'est le secrétaire de mon père, M. Holman. Il passe son existence à la Nationale ou dans des bibliothèques à l'étranger. Il y réunit une importante documentation pour une encyclopédie universelle, sociale et politique, que mon père s'est depuis 5 ans mis en tête d'écrire. C'est un vieil homme timide. Votre seule vue a suffi à le faire fuir. »
Gray eut un sourire excusant ce M. Holman, puis son regard se fixa sur les portes qui dans la galerie faisaient face à celle de la baronne Spitzau. Celle-ci expliqua aussitôt « Voici la chambre de ma première femme de chambre. Voulez-vous visiter également cette pièce, si vous le permettez ?» Comme il allait y pénétrer, Poussin parut tout à coup au haut de l'escalier de service qui aboutissait au fond de la galerie. Il était accompagné d'une femme paraissant avoir 30aine d'années, et qui, la mine froidement ironique, s'arrêta net à la vue de sa maîtresse et de Gray.
« Allons, avancez !» gronda Poussin, qui, le front en bataille, foudroyait du regard sa compagne. Puis, comme il arrivait près de Gray, il bégaya, essayant de dompter sa colère.
« Cette femme de chambre qui se permet d'être insolente et qui n'admet pas que je mette mes sales pattes dans sa chambre, mes sales pattes. Vous allez voir comment elle sait fouiller une maison, mes sales pattes.
Mais, madame la baronne, » voulut expliquer la domestique tournée vers sa maîtresse.
« Quand on n'a rien à cacher, on se tait !»
coupa Poussin, et sans hésitation, il pénétra dans la pièce en maître et en vainqueur.
Maintenant, la femme de chambre restait sur place, silencieuse, regardant Gray avec attention. Gray hocha la tête sous la muette interrogation de la baronne Spitzau. Il expliqua, excusant Poussin. Il poursuit son enquête, c'est son droit. Mais il est inutile que nous fassions tous de la même chose. Puis-je vous demander encore, madame, quelques secondes d'entretien ? Mme Spitzau acquiesça de bonne grâce et elle-même fit entrer de réchef l'inspecteur dans le boudoir où elle l'avait reçu quelques instants auparavant. Quand il fut de nouveau seul avec la jeune femme, Gray comprit qu'il en subissait décidément un peu trop le charme, et il fallut qu'il fît un grand effort pour que cette influence n'annihilât pas sa clairvoyance. Sous le couvert de s'occuper uniquement du vol, il posa cette fois quelques questions sur les choses et les gens. La baronne Spitzau répondait avec une simplicité confiante et semblait n'éluder aucune question, même celle qui aurait pu sembler presque indiscrète. Gray apprit ainsi en quelques instants que sa ravissante interlocutrice avait très peu d'intime, et que, sauf deux ou trois amies qu'elle n'avait pas vues, les unes depuis un certain nombre de jours, les autres depuis des semaines ou des mois, elle ne recevait personne dans son boudoir du premier étage, encore moins dans sa chambre. Elle n'avait aucun parent ou parente autre que son père, et il ne restait plus de la famille de feu son époux qu'une sœur de celui-ci. Cette dame habitait en Hongrie, et les deux belles sœurs avaient rompu toute relation. Au passage, Gray nota que la jeune femme n'avait eu aucune intonation triste ou de regret, bien au contraire, en citant le nom de son mari. En revanche, quand le nom de Zanakroff, son père, passait sur ses lèvres, elle marquait comme un temps d'admiration et de respect, d'obéissance disciplinée. La baronne Spitzau répéta encore que la première femme de chambre était au-dessus de tout soupçon, et elle en donna pour preuve que bien souvent en voyage elle lui avait confié tous ses bijoux et même d'importantes sommes d'argent. Quant à Madame Vanswell, elle ne pouvait même pas être effleurée d'un soupçon. Ne recevait-elle pas mensuellement de sa famille en Hollande une rente de 6 000 francs, tandis que son mari, dont elle était divorcée, lui en envoyait en plus 3 000 environ par mois? Ici même, elle était défrayée de tout comme la plus chère amie de la maison. À entendre la charmante femme, le vol aurait sûrement bien été commis entre son réveil et son retour de promenade à cheval, et nul pourtant n'était soupçonnable de ceux qui, durant ce laps de temps, s'étaient approchés de sa chambre. Gray conçut qu'il convenait de rester dans cette incertitude quant au vol pour gagner le temps utile à poursuivre une enquête autrement plus importante. Il se contenta donc pour l'instant de prier Mme Spitzau de lui permettre d'emporter les 3 objets dédaignés par le voleur ou la voleuse. Il voulait faire rechercher par le service spécial de la préfecture les empreintes qu'on pourrait y retrouver. C'était là un travail délicat qui ne pouvait se faire que là. C'est à peine si la jeune femme eut une hésitation, elle se dirigea vers la chambre pour y chercher les objets. Comme elle ouvrait la porte de communication, la glace d'un trumeau permit à Gray d'entrevoir Madame Vanswell, qui avait pénétré dans la chambre des Tell Spitzau. Il l'entendit qui disait « Ma chère, si vous laissez traîner ces objets sur cette commode, on vous les volera aussi. »«
Oh non !»
répondit la jeune baronne. « Monsieur Gray en a besoin. Je vais les lui confier. »«
Ah, très bien !»
reprit l'ami d'une voix indifférente. Et Madame Spitzau reparut tenant dans sa main les objets demandés, toujours entourée du mouchoir de Gray. Celui-ci mit soigneusement le tout dans sa poche. « Puis-je revenir vous apporter le résultat de mes investigations ? Je vous en prie !» répondit aimablement la jeune femme en lui tendant la main. Gray sortira, et comme il était près de 12h30, il sortit de l'hôtel, cueillant au passage Poussin, lequel, ayant mis à sac la chambre de la pauvre Marguerite et n'y ayant rien trouvé, était d'une humeur massacrante qui s'extériorisait par des menaces et des jurons étouffés. Quand ils eurent fait quelques pas dans la rue, l'inspecteur principal résolut d'interrompre le cours des pensées dans lequel il voyait son collègue profondément plongé. « C'est tout de même inouï, » dit-il. « Les gens font venir la police et quand elle l'a, ils déclarent tout le monde innocent et mettent tous les bâtons possibles dans les roues. »«
C'est exact, » dit Gray.
« Mais qui vous a mis des bâtons dans les roues ?»«
Le patron lui-même, ce Zanakroff. »
Comme je sortais de la chambre de cette diablesse de bonne, il remontait et m'a aperçu. Il m'a ricané au nez et m'a dit « Si c'est là que vous cherchez les bijoux de ma fille, vous n'êtes pas prêt de les retrouver. » Et il a filé en haussant les épaules. Et son vieux secrétaire, qui le suivait comme une girafe ou comme un caniche, me lançait un regard en dessous et une espèce de grimace méprisante. Comme Gray ne répondait pas, semblant à peine avoir entendu, Poussin s'inquiéta et examina son célèbre collègue. Il questionna avec une humilité hypocrite. «
Vous avez une idée, vous ?
Une idée,
répondit Gray, comme s'il tombait de la lune. Une idée, non. Satisfait de la réponse, Poussin reprit. Je déjeune dans le quartier. Je veux retourner dans cette boîte le plus tôt possible.
Eh bien, déjeunons ensemble, proposa Gray inopinément. Je vous invite.
Et comme s'il avait eu tout à coup un but précis, il conduisit Poussin vers la rue Miroménil. Quand ils l'eurent atteinte, Gray se mit à examiner les magasins d'un côté et d'autre, et avisant tout à coup un petit restaurant de chauffeur qui étalait en devanture sa carte délavée.
« Entrons là, » dit-il.
Poussin espérait mieux, mais, comme il était l'invité, il ne présenta point d'observation. Gray choisit sa table et sa place face à la porte d'entrée.
« Nous serons très bien ici, » dit-il.
« On voit ce qui se passe dans la rue, c'est plus gai. » Poussin s'aperçut bien vite que Gray s'occupait bien davantage des mouvements de l'extérieur que du repas médiocre qu'il mangeait machinalement. L'inspecteur principal en conclut avec un certain mépris que ce prétentieux Gray n'était pas un homme de devoir. Évidemment, un simple vol aussi important fut-il ne retenait pas son attention. Il fallait de grands crimes à ce monsieur, de retentissantes affaires d'assassinat. Il fut confirmé dans ce jugement quand, à la fin du repas, ayant demandé à Gray s'il retournerait avec lui à l'hôtel du parc Monceau, celui-ci lui déclara qu'il lui laissait pour l'instant le soin de poursuivre l'enquête. Poussin parti, Gray avait continué d'observer ce qui se passait dans la rue. L'entrée d'une blanchisserie située juste en face du restaurant attirait machinalement mais particulièrement son attention. Bientôt, il vit entrer dans cette boutique une femme d'aspect assez quelconque, mais qui, avant de pénétrer dans la blanchisserie, avait marqué un court arrêt et regardé attentivement autour d'elle. Cette attitude eut le don de faire aussitôt sortir Gray du restaurant. Il traversa la rue et pénétra à son tour dans la blanchisserie. À la vérité, il se demandait encore à ce moment que les subconscients le faisaient agir depuis une heure. Évidemment, une toute petite chose l'avait frappé au passage, un très léger étonnement. Il avait été surpris, l'espace d'un éclair, qu'une femme de la qualité de Madame Bonsvel, de son élégance, de sa classe, prit la peine d'aller chez la blanchisseuse. Passe pour le bottier, le couturier, voir un grand magasin, mais la blanchisseuse l'étonnait. Oh, un peu, pas beaucoup. Dès l'entrée, il constata que la dame aperçue avait déjà disparu, sans doute dans l'arrière-boutique dont la porte fermée se voyait au fond. Il n'y avait dans le magasin qu'une grande jeune fille brune, assez distinguée, peu jolie, qui semblait s'occuper de comptabilité, tandis qu'une apprentie, boiteuse et l'air hébété, repassait sur une table des mouchoirs de fine batiste. « Vous désirez, monsieur ?» demanda la jeune fille en se levant et s'avançant. Gray fut frappé par une pointe d'accent. Cette fille était certainement une orientale. « Mademoiselle, doucement Gray, on m'a indiqué votre maison comme spécialisée dans le repassage du linge de luxe. Or, j'ai une sœur qui vend de la lingerie de femme. Elle aura besoin d'avoir une maison sûre pour repasser et mettre en pli cette lingerie à fin de présentation.
« Certainement, » dit la jeune fille, comme un regret.
« Pourriez-vous me donner quelques aperçus de vos prix ?» insista Gray.
« Oui, c'est-à-dire, je préférerais que ma mère...
Je comprends, n'est-elle pas là ?»«
Elle est occupée en ce moment, »
répondit la jeune fille avec une certaine répugnance. Et malgré elle, son visage se tourna vers la porte du fond.
« Oh, c'est dommage, vraiment dommage !» murmura Gray.
« Eh bien, je reviendrai plus tard. »«
C'est ça, monsieur. »
À peine sorti, Gray avisa un café non lointain. Et y est entré, il se précipita, muni d'un jeton, dans la cabine téléphonique. Ayant eu sa communication, il ne tarda pas à sortir et alla se poster au coin d'une rue, d'où à moins de 100 mètres, il pouvait parfaitement apercevoir la sortie de la blanchisserie. Qui eut attentivement observé le célèbre inspecteur, aurait remarqué sur son visage la marque d'un espoir fiévreux. C'est que dans sa pensée, les mots, les faits, les observations et les déductions commençaient à se coordonner doucement. Il n'était pas là depuis 10 minutes qu'un homme s'avança de son côté. Gray, en le voyant, lui tourna le dos, mais dès qu'il sentit l'homme à sa hauteur, il murmura. La femme brune, 40 ans, en bleu sombre, qui va sortir de la blanchisserie à gauche plus loin, ne la lâchez pas, et téléphonez le plus souvent possible à votre chef. L'homme, qui avait marqué un temps d'arrêt, comme pour allumer une cigarette, continua son chemin. Gray, sans plus attendre, héla un taxi, donna une adresse et sauta dans la voiture. Tandis que celle-ci roulait vers le but indiqué, Gray, ayant observé par habitude à travers la glace arrière s'il n'était pas suivi, se rejeta dans un coin et se plongea dans ses pensées. Le taxi le déposa au but indiqué, proche de la chambre des députés.
Ayant réglé le chauffeur, il aborda une jeune femme qui semblait l'attendre, l'embrassa tendrement et s'en alla avec elle. C'était bien là un couple charmant, heureux de s'être rejoint. Quelques instants après, tous deux entraient dans une vieille maison de la rue de Bourgogne. Dans l'escalier, la jeune femme murmura à Gray « Le chef vous attend au troisième étage, monsieur. » À cet étage, Gray était accueilli seul dans un petit cabinet de travail par le chef du deuxième bureau, celui-là même dont il avait reçu le matin la charge de l'enquête. « Votre coup de téléphone m'a surpris, » dit le chef. « C'est allé vite, en besogne. Mes compliments. » « Jolie jeune fille, n'est-ce pas, que je vous ai envoyé ? Il faut prendre des précautions. » »« C'est aussi la raison pour laquelle je reçois ici, et nous au ministère. Cette maison est commode. » »« Elle a trois entrées. Mais venons au fait. Sérieuse, votre piste ?»« Je ne sais pas. Des intuitions rapides m'ont conduit à la suivre. Les apparences semblent m'avoir donné raison, mais il se peut aussi que je me fourvoie. Toutefois, il faut agir vite. » C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé ce collaborateur d'urgence. Oui, pour suivre cette personne, cette cliente de la blanchisserie. Comment avez-vous été amené ? À ce moment, un appel téléphonique se fit entendre. Je suis branché directement avec le standard du ministère, dit le chef, en prenant l'appareil. La communication terminée, il se tourna vers Gray. C'est l'homme que je vous ai envoyé. La femme est ressortie de la boutique avec un paquet. Elle rentrait chez elle à un hôtel meublé de la rue de Moscou. Mon agent a pu prendre les renseignements au bureau de l'hôtel. C'est une dame Hofstein, se disant tchèque, mariée à un voyageur de commerce qui est presque toujours absent. Mon collaborateur attend près de l'hôtel et continue sa surveillance. Je suis d'avis de risquer plutôt une bévue que de rater une occasion, dit froidement Gray. Vous avez raison, approuva le chef. Filons, vous m'expliquerez en route. 10 minutes après, les deux hommes pénétrèrent accompagnés de l'agent du deuxième bureau dans la chambre de la dame Hofstein. L'étrangère parut fort étonnée de cette intrusion inattendue, mais ce fut de la manière la plus souriante qu'elle se déclara prête à répondre aux questions de ces messieurs de la police. Tandis que le chef posait des questions d'identité, les yeux de Gray cherchaient le paquet que la dame avait rapporté de la blanchisserie. Ne le voyant pas, il ouvrit tranquillement l'armoire à glace. Sur les rayons du linge d'homme et de femme étaient soigneusement rangés. « Que cherchez-vous là, monsieur ?» ne put s'empêcher de s'écrier Madame Hofstein. Sans se démonter, il poursuivit son examen. Il lui parut qu'une chemise de soirée d'homme dépassait un peu l'alignement soigné d'une pile. Avec précaution, il la tira à lui, et l'ayant libérée de l'armoire, il la posa tranquillement sur le lit et l'examina. Madame Hofstein, à cette vue, eut un petit rire en cascade. « Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cette chemise ? C'est une chemise de mon mari. Ah ah ! Il les achète aux Galeries Lafayette, je crois. » C'est celle que venait de rapporter de la blanchisserie de la rue de Miroménil, n'est-ce pas ? Demanda Gray avec une feinte indifférence. La dame marqua un temps de réflexion qui n'échappa pas à ses suiveurs avant de répondre. Ça et d'autres linges, c'est possible en effet, mais est-ce un crime ? Ce fut le tour de l'inspecteur de ne pas répondre. Tranquillement, il restait pensif devant cette chemise, dont le plastron rigide, bien amidonné, lisse, brillant, attirait si profondément son attention. Comme les yeux interrogateurs du chef se posaient sur lui, Gray poursuivit. « Est-ce ce soir que votre mari revient de voyage ?»« Non, pas avant 2 ou 3 jours. »« Où est-il en ce moment ?»« Il voyage pour une maison de coffre-fort. »« Française ?»« Non, Suisse. »« Et il est présentement ?»« En Suisse, justement. Il est allé à la fabrique. » Pendant cet échange de paroles, Gray n'avait cessé de regarder ce plastron de chemise à qui il semblait vouloir arracher un impossible secret. À vrai dire, le chef du deuxième bureau jugeait cet inspecteur de police, aussi célèbre fut-il, presque un peu ridicule. Comment cette chemise pourrait-elle éclairer l'enquête ? Est-ce que ce Gray ne venait-il pas de lui faire faire un pas de clerc ? Cette Hofstein paraissait assez sûre d'elle. Un silence était établi dans la chambre ensoleillée. À ce moment, les rayons du soleil avaient atteint le lit qu'ils baignaient de leur clarté brûlante. « Puis-je reprendre cette chemise ?» dit la dame en souriant, non sans ironie. Gray, déçu, hésitant, allait lui permettre et s'excuser quand tout à coup il arrêta la main qui se tendait déjà. « Non » s'écria-t-il, « écartez-vous » C'est qu'un miracle semblait vouloir se produire. Un miracle ? Non. Mais un phénomène chimique que nul cependant n'aurait pu prévoir. Sous l'influence des rayons de soleil traversant les carreaux de la fenêtre, comme ils eussent fait d'une loupe, tout à coup l'impeccable plastron de la chemise se polluait de petites taches d'un jaune gris, et ces taches prenaient assez rapidement le contour de caractères d'écriture devenant de plus en plus nets. Gray s'était placé entre la table et l'objet de ses observations. D'un signe, il avait attiré l'attention du chef. Celui-ci restait stupéfait devant la réaction que la chaleur produisait sur le linge empesé. « Extraordinaire !» murmura le vieil officier en fixant Gray avec admiration. « Je vais emporter cela tout de suite au service du chiffre. J'espère qu'ils arriveront à trouver la clé de ces hiéroglyphes. » Gray perçut une légère lueur de défi dans les yeux de la femme qui jouait pourtant avec soin la plus profonde stupéfaction. Alors l'inspecteur se décida à parler. « Je possède peut-être quelque chose susceptible d'aider ces messieurs du chiffre dans leur recherche. » Et de sa poche, il sortit la petite grille de filigrane de gêne ornée de camé qu'il avait emportée. « Voyez donc cela, » dit-il en remettant l'objet au chef du deuxième bureau. « Oui, voyez donc cela. » Puis il se tourna vers Madame Hopstein. « Bien entendu, vous n'êtes au courant de rien, » demanda-t-il à son tour ironique. « Ou du moins, vous ne voulez rien dire. » Elle lui lança un regard de haine, mais tout aussitôt, se reprenant, « Vous pouvez être sûr que je n'y comprends rien, » dit-elle. « Bon, bon, » reprit l'inspecteur. « Je regrette de ne pouvoir vous conduire moi-même où il convient que ces messieurs vous accompagnent. Mais vous m'excuserez ainsi qu'ils voudront bien le faire eux-mêmes. Je suis dans l'obligation de poursuivre cette affaire en d'autres directions. » Puis il se tourna vers le chef. « Je crois qu'avant que vous sortiez tous trois de cet hôtel, il faut me donner le temps d'arriver où je me rends. Évitons tout signal possible s'il en est temps. D'autre part, une perquisition s'impose, bien que je ne pense pas que les bijoux soient ici. Mais tout le linge de Madame Hopstein et de son mari est trop curieux pour ne pas mériter une étude approfondie. En outre, un de ces messieurs devra, au plus tôt, je crois, faire appréhender tous les gens de certaines blanchisseries, et aussi s'occuper de M. Hopstein si jamais il revient. » Là-dessus, Gray se retira rapidement, sortit de l'hôtel, sauta dans un taxi et retourna rue de Monceau pour la seconde fois. Il pénétrait bientôt chez Anna Croft. Sous le prétexte normal de faire un examen plus approfondi du coffre, il déclara qu'il avait le désir de monter dans la chambre de la jeune baronne. « Oh, Madame Mansvell et la première femme de chambre sont là-haut, » commença le maître d'hôtel. « Inutile de les déranger, » coupa Gray. Quelques secondes après, il pénétrait dans la chambre de la jeune baronne. Aussitôt, il perçut les bribes de propos que deux voix de femmes échangeaient à côté. Le ton semblait violent, bien que les voix fussent volontairement assourdies. Gray écouta. « Je vous en crois très capable, » dit une voix à l'accent étranger, probablement celle de Madame Zwell. « Si vous me croyez capable de voler ma patronne, je vous crois, vous, capable de bien pire. » Gray crut cette fois reconnaître la voix de la première femme de chambre. L'étrangère reprit. « Je méprise les insinuations d'une domestique. La jalousie vous aveugle. La jalousie. Oui, oui, la confiance qu'est-elle en moi vous rend folle. Oui, parce que vous êtes une vilaine créature et un jour elle comprendra. Et ce jour n'est pas loin. La police est dans la maison. » Madame Mansvell eut un petit éclat de rire. « Je crois même, scanda-t-elle d'une voix sèche, qu'elle a l'œil sur vous. S'ils étaient aussi malins que l'on m'avait dit, ils en profiteraient pour regarder ailleurs. » Et ce qu'ils découvriraient leur vaudrait peut-être plus que les bijoux de Madame la Baronne, qui ne sont peut-être pas en péril. Je ne comprends rien à vos énigmes. Nous verrons, nous verrons. » Quand la femme de chambre sortit de la pièce voisine, elle se trouva en présence de Gray, déjà revenu dans le couloir. Gray, d'un geste gentil, conseilla le silence et lui fit signe de rentrer avec lui dans la chambre de la Baronne Spitzau. Là, à voix très basse, il murmura « Asseyez-vous. » Il la regarda quelques secondes, pensivement, puis doucement. Il se mit à examiner la chambre tout en souriant, tout heureux comme pour un jeu. « Suis-je bête ?» murmura tout à coup Gray, s'adressant à la domestique. « Une personne qui voudrait simuler un vol sans que les soupçons puissent l'effleurer. Quand on retrouverait les bijoux, les cacherait dans le meuble le plus personnel de leur propriétaire, le lit. Oui, certainement, ils sont dans ce lit que vous êtes seul à faire. Mais où dans ce lit ? Dans le sommier, parbleu. Il repose sur la toile de dessous. Un petit coup de ciseau, un paquet dans un mouchoir, et il faudra bien que la police vienne mettre son nez dans la maison, interroger le personnel, prendre des renseignements sur les gens, sur leurs actes, sur les faits, sur les objets étranges. C'est cela, n'est-ce pas ? La femme de chambre s'est élevée sous le coup d'une émotion visible. Muette, elle fixait Gray comme pour lui dire : « Oui, comprenez donc, comprenez tout. »
Gray s'approcha. Manœuvre dangereuse, mais intelligente.
Pourquoi avez-vous laissé la grille, spécialement ?
Alors elle balbutia, regardant la porte de Madame Vanswell.
Un jour, j'ai surpris cette femme qui tenait cette petite grille à la main. À travers cette grille, elle dessinait je ne sais quoi sur un linge blanc empesé. Elle a paru terriblement ennuyée d'avoir été vue par moi dans cette occupation. Elle m'a donné je ne sais quelles explications. Je n'ai pas compris, mais j'ai senti d'instinct qu'il y avait quelque chose de mal. Déjà une fois, en voyage, je l'avais trouvée fouillant dans les papiers de monsieur.
Gray poussa un soupir de satisfaction.
Si Madame Vanswell fouillait dans les papiers de Zanacroff, c'est qu'il était probable qu'il n'était pas son complice et que ni lui ni la baronne Spitzau n'étaient mêlés à ces ténébreux agissements. La Vanswell, non seulement se servait de ses hôtes comme couverture, mais encore devait glaner chez eux à l'occasion des renseignements diplomatiques. Une question lui échappa. Comment la baronne Spitzau avait-elle confiance en cette femme ?
Madame la baronne n'aurait pas supporté que je lui dise ce que je pensais de celle qu'elle croyait sa meilleure amie. Et puis, elle est si seule dans la vie. La Vanswell remplissait cette solitude de sa prétendue amitié et de sa tendresse hypocrite.
Gray avait deviné juste.
À ce moment même, une porte s'ouvrit et l'inspecteur Poussin parut, l'air abattu et luisant de sueur. Il maugréa.
On m'a dit que vous étiez là. Tant mieux. Ah, il y a une chose certaine maintenant. C'est que les bijoux ne sont pas dans la maison. Ça, j'en réponds.
Gray n'eut même pas un sourire.
Mon cher Poussin, murmura-t-il, je connais la coupable. Vous pouvez l'arrêter. Elle est dans la chambre voisine.
À cette déclaration, Poussin écarquait les yeux et resta bouche bée. Puis son regard se porta sur la femme de chambre avec un certain regret. Enfin, à voix étouffée, il bégaya.
Vous êtes sûr ?
La Vanswell ?
C'est que j'en prends la responsabilité. Dit Gray froidement.
Aussitôt Poussin, ne voulant pas être en reste avec son collègue jalousé.
« Je ne vous l'ai pas dit, murmura-t-il, mais je me doutais que c'était elle.
Oui, j'avais réfléchi. » Et se redressant triomphant, il ouvrit avec autorité la porte de Madame Vanswell et entra en justicier chez l'élégante et jolie femme.
« Tous mes regrets, dit-il à la dame, mais je suis obligé de vous demander de m'accompagner à la police judiciaire. »
Madame Vanswell parut stupéfaite.
« Moi ? Oui, vous. »
« Et pourquoi, mon Dieu ?
Vol de bijoux. Vous êtes fou.
Mon collègue et moi sommes sûrs que vous êtes la coupable. Allons, dépêchons-nous. »
Madame Vanswell réfléchit un peu, puis questionna lentement.
« C'est votre collègue qui a trouvé ça ?
Lui et moi.
Lui surtout, n'est-ce pas ?
Il m'a confirmé dans mes soupçons. »
Gray s'était encadré dans la porte de communication. La femme s'adressa à lui et se composa un visage orgueilleux.
« Vous savez bien que ce n'est pas vrai. »
« Ce qui est vrai, dit froidement Gray, se décidant à un coup droit hasardeux,
c'est ce qui découle d'une photo découverte dans les bagages d'une danseuse bulgare, d'un couvercle en filigrane de gêne que vous avez donné, mais dont vous seul vous serviez, d'une visite à une blanchisseuse au sortir des galeries de Lafayette, et d'une autre visite que j'ai faite à une dame Hopstein. Le reste, la chimie, le service des chiffres et l'arrestation de quelqu'un de vos amis, nous l'apprendrons vite. »
Poussin ouvrait la bouche comme une carpe hors de l'eau, ne comprenant rien aux paroles de son collègue.
À ce moment, la jeune baronne Spitzau, rentrant de ses courses, se montrait à son tour attirée par le bruit.
« Je vous présente N93, espionne, » laissa tomber Gray, en désignant Madame Vanswell à la jeune baronne stupéfiée. « Pour vos bijoux, ils sont dans votre chambre. Il n'y manque que le couvercle en filigrane de gêne qui est au service du contre-espionnage. »
Madame Vanswell en a bien fait faire une ou plusieurs copies, mais elles sont entre les mains de ses agents, ici ou de ses chefs en Europe centrale.
Votre personnalité couvrait celle de Madame Vanswell.
Ainsi, ou je me trompe fort, quand les chefs de N93 voulaient indiquer à l'un de leurs agents, ils donnaient à ce dernier une de vos photos d'identité en leur disant « N93 est la femme qui accompagne toujours cette personne-là, baronne Spitzau. »
Si c'était compromettant pour vous,
cela mettait Madame Vanswell à l'abri.
La surprise et le mépris laissaient sans voix la jeune femme.
Madame Vanswell eut un rire sarcastique.
« Vraiment, dit-elle, je crois que la pièce est jouée. »
Et suivie de Poussin, agissant comme un automate, elle sortit vers son implacable destin.
Ainsi s'achève Gray contre N93 par Alfred Gragnon.